RFI.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi, mais pour rejoindre Afrique Midi.
Afrique Midi.
À 14h30 à Maputo, c'est avec vous Nemo Mpiz, bonjour.
Bonjour Victor, bonjour à tous. Trois jours après la victoire annoncée de Daniel Chapo à la présidentielle au Mozambique, la tension est redescendue d'un cran dans les rues de la capitale. Jeudi, de violents rassemblements ont éclaté. On fait le point sur la situation dans le pays dès le début de ce journal. Début de campagne imminente au Sénégal en vue des législatives anticipées du 17 novembre. Hier, le président Bassirou Diomaye Faye a pris la parole, appelant tous les citoyens à la retenue pour le bon déroulement du scrutin. Nous sommes à Abidjan également, où une trentaine de ressortissants ivoiriens du Liban ont pu être rapatriés depuis hier soir. Et puis la fin de ce journal à Kinshasa, où se déroulent jusqu'à ce soir les championnats africains de boxe. Hier, Brigitte Mbabi, porte-drapeau de la délégation olympique congolaise à Paris cet été, a décroché le titre dans sa catégorie. La situation au Mozambique pour débuter ce journal, après de violentes manifestations déclenchées jeudi au lendemain de la proclamation de la victoire à la présidentielle de Daniel Chapo par la commission électorale avec 71% des voix, très loin devant Venancio Mondlane du parti Podemos et ses 20%. Podemos qui rejette les résultats, tout comme la Renamo, parti historique de l'opposition, qui évoque une victoire volée et qui ont tous deux appelé leurs partisans à descendre dans les rues. Bonjour Christina Okello.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Quelle est l'ambiance ce samedi?
Alors que les magasins rouvrent et que les habitants tentent de reprendre les activités, les rues de la capitale Maputo portent encore les stigmates de violence de ces derniers jours. Partout, des pneus brûlés, des vitres brisées et d'autres débris jonchent encore les rues. Autre signe de cette instabilité, l'accès à Internet, perturbé depuis hier, reste limité. Une coupure qui viserait l'opposition. Le très connecté et candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, avait en effet encourager ses jeunes partisans et se coordonner sur les réseaux sociaux pour paralyser le pays. Le Podemos et le Renamo rejettent les résultats de l'élection générale, dénonçant un processus qu'ils qualifient de biaisé en faveur de Frelimo. De son côté, l'Union européenne a émis des réserves quant à la transparence du décompte des voix et condamne la violente répression des manifestants après la mort d'une personne à Nampula, dans le nord-est du Mozambique. Un mort qui s'est produit lors d'affrontements entre manifestants et police. Plus de 300 arrestés ont déjà été signalés. Malgré les risques de répression, Nemo, Venancio Mondlane a annoncé aujourd'hui qu'une troisième journée de manifestations débutera lundi.
Merci Christina Okello pour ces dernières précisions sur la situation au Mozambique. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé hier à quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les législatives anticipées fixées au 17 novembre prochain. Courte allocution d'à peine 4 minutes dans laquelle le chef de l'État a appelé tous ses concitoyens à faire en sorte que le processus électoral se passe bien. Je vous propose d'écouter Bassirou Diomaye Faye.
À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires, ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont un moment crucial de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde. Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques une campagne électorale pacifique et digne. Et je vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes, et que le meilleur gagne.
Les propos de Bassirou Diomaye Faye, recueillis par Gwendal Lavina, correspondant de RFI à Dakar. Un peu plus d'un mois après le début de l'offensive militaire israélienne au Liban, ils sont plusieurs, ces pays africains, à évacuer leurs ressortissants. Le Sénégal l'a fait, mais aussi le Kenya, l'Éthiopie, l'Algérie ou encore le Nigeria. Illustration de ces rapatriements aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont 60 à avoir décidé de rentrer. Hier, une vingtaine d'entre eux a pu rallier Abidjan et ce matin, une douzaine d'autres a débarqué à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Benoît Almeras y était.
C'est la fin d'un calvaire pour ces agents de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth, traumatisés à l'image du maître d'hôtel Otou Kwame.
C'était des bruits intenses, des bombardements, des détonations. Donc tout le temps on était perturbé dans le sommeil. C'était vraiment horrible. un petit bruit, le bruit de verre, de ceci, de cela, ça nous donnait vraiment la peur.
Accueillis par leurs compatriotes, les évacués ne semblent pas rassurés. Les traits tirés, l'ambassadeur Christophe Kouakou a tout de même des motifs de soulagement.
On n'a eu à déplorer aucun cas de décès ou de blessés.
Les rapatriés sont ramenés à bord de vols commerciaux en fonction des places disponibles. Joachim Kanté-Kouassi est directeur de cabinet du ministre ivoirien des Affaires étrangères.
Alors, une fois qu'il y a une situation qui se produit quelque part, on cherche tout de suite à voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut leur porter assistance. Toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent revenir en Côte d'Ivoire puisque les billets d'avion ont été émis.
Sur l'ensemble des Ivoiriens inscrits au registre de l'ambassade, une quarantaine a préféré rester au Liban pour le moment. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
RFI, l'actualité en bref, et cette visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères en Égypte. Andrei Sibiga a une première rencontre au Caire avec son homologue Badr Abdelhati. L'Égypte qui importe une large partie de son blé d'Ukraine, même si la Russie reste le premier fournisseur des 10 millions de tonnes de blé qu'importe l'Égypte. Au Burkina Faso, le coup d'envoi du SIAO, le salon international de l'artisanat de Ouagadougou, donné par le capitaine Ibrahim Traoré. L'artisanat sur le continent africain représente 20% du PIB, un secteur qui emploie surtout 60 millions de personnes, essentiellement des jeunes. D'où le thème de cette 17e édition, artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Des exposants d'une trentaine de pays sont présents dans la capitale burkinabé, et cela malgré un contexte sécuritaire difficile. Précision, Alexis Guilleux.
4000 exposants, 150 acheteurs et visiteurs professionnels pour Serge Poda, ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Cette 17e édition du SIAO est une invitation pour la jeunesse africaine.
Il s'agit d'un secteur qui a un très fort potentiel donc de création de richesses, d'offres d'emploi et donc de possibilités et d'offres d'affaires. Il s'agissait à travers ce thème de mettre en exergue à quel point l'artisanat peut être un vecteur de développement et d'autonomisation de la jeunesse africaine.
Invité d'honneur, le Niger et le Mali, les deux autres pays de l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso, des invités installés cette année dans le village de l'AES. Ousmane Koulibaly est le directeur général du Centre de développement de l'artisanat textile du Mali.
Il va y avoir beaucoup de produits, comme vous les voyez, il y a des produits textiles, il y a les produits d'artisanat d'art, il y a les produits confectionnés par nos Touaregs de la région du Nord. Et il y a les produits faits par la maroquinerie. Nous avons apporté beaucoup de choses au niveau de ces SIAO parce que le Burkina est un pays frère.
Selon le ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, la tenue de cette édition est un grand défi pour Ouagadougou. Le périmètre de sécurité autour du site d'exposition a été élargi et toutes les composantes des forces de sécurité sont mobilisées.
RFI, 13h38 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, Félix Tshisekedi, en visite à Kisangani, annonçait la création d'une commission chargée d'élaborer une constitution, je cite, « adaptée aux réalités congolaises ». Dans la foulée, l'opposition, mais aussi la société civile, ont catégoriquement rejeté ce projet qui pourrait notamment déboucher sur la levée de la limitation des mandats et ainsi permettre au président de se représenter une troisième fois. Et en plus de l'opposition, cette révision ne fait pas non plus l'unanimité parmi les alliés du propre parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS. Alexandra Branjon.
Dans nos rangs, ça ne passe pas du tout, confie un cadre d'un des principaux partis au sein de l'Union sacrée. Tshisekedi est le fruit de la contestation contre le régime de Kabila, ajoute ce même cadre. Si c'est pour faire la même chose, tous les sacrifices endurés n'auront servi à rien. Il y a 9 ans, l'UDPS était en effet à la tête de la fronde contre le changement de constitution voulu par l'ancien président Kabila, qui achevait son second mandat. Les manifestations s'étaient soldées par des dizaines de morts. Modifier la constitution est une décision qui divise au sein de l'Union sacrée, confirme un chercheur. Il va y avoir des déçus, ajoute-t-il, parmi ceux qui ont des ambitions présidentielles pour 2028. Officiellement, pas de réaction des leaders des principaux partis alliés à l'UDPS au sein de l'Union sacrée, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba ou Modeste Bahati. Il est trop tôt pour abattre ses cartes, commente un autre politologue. Le faire maintenant serait suicidaire, ajoute-t-il. Se désolidariser maintenant a des conséquences, souligne -t-il. Cela implique quitter l'Union sacrée et perdre son poste politique à 4 ans des prochaines élections.
Alexandra Branjon. Au moins 50 personnes tuées au Soudan, dans le centre du pays, selon un groupe pro-démocratie local. Ce dernier affirme que les paramilitaires FSR du général Emeti ont assiégé des villages entiers dans ce secteur de l'état d'Al Jazeera. La source indique que plus de 200 personnes ont également été blessées et qu'il était impossible pour l'heure de les évacuer en raison des bombardements et des tireurs embusqués des forces de soutien rapide qui ont récemment intensifié les violences contre les civils dans cet état agricole situé au sud de la capitale, Khartoum. Au Cameroun, l'affaire Longué-Longué a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Longué-Longué, de son vrai nom Simon Lonkana Agno, musicien et chanteur de Makossa qui avait soutenu l'opposant Maurice Kamto après la dernière présidentielle. Aujourd'hui, il ne vit plus au Cameroun, mais cette semaine, il a partagé une vidéo des sévices qu'il a dit subir. Longué-Longué dit avoir été victime de torture il y a 5 ans à Douala. Lui affirme qu'il vient seulement d'obtenir la vidéo et met en cause des éléments de la sécurité militaire. De son côté, le ministre de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête. Amélie Tulé.
Une enquête confiée en interne au service spécialisé de l'armée. Selon le communiqué, les responsabilités seront établies et les conséquences tirées en fonction. Le ministre camerounais chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a été interpellé par le président de la Commission des droits de l'homme dans un courrier. Selon le professeur Kobila, la diffusion de cette vidéo 5 ans après les faits ne résulte pas du hasard. Cela participe, dit-il, d'une manœuvre des contempteurs du Cameroun pour ternir l'image du pays. Les instigateurs de la vidéo, écrit-il, sont certainement informés du passage du Cameroun devant le comité contre la torture mi-novembre. Il préconise d'identifier et sanctionner les coupables et d'indemniser promptement Longué-Longué. De plus, Yaoundé prépare son dossier pour réintégrer l'AGOA, partenariat commercial avec les États-Unis, et Washington demande des preuves, voire des listes des éléments des forces de l'ordre sanctionnés pour des faits de torture. Mais quelle que soit l'intention à l'origine de la sortie de cette vidéo, des organisations camerounaises de la société civile s'appuient sur ce document rare de sévices infligés à une personnalité connue pour interpeller le gouvernement sur la nécessité d'agir contre une pratique qu'elle qualifie de récurrente au Cameroun.
Amélie, tu l'es volé environnemental dans ce journal avec cette étude de scientifiques de l'université de Neuchâtel et du Muséum national d'histoire naturelle. Ils se sont intéressés au comportement des gorilles de l'ouest du continent. Ces derniers se déplacent en groupe à la recherche de nourriture, ce qui implique une coordination de leurs mouvements dans la forêt. Mais alors, qui sonne le départ et choisit la direction à prendre? Les chercheurs ont tenté de répondre à la question et ont publié leur réponse mercredi dans la revue scientifique The Royal Society. Igor Strauss décortique cette enquête.
Les chercheurs ont passé 11 mois à étudier 3 groupes de gorilles dans la forêt de Dzanga-Sanga, en République centrafricaine. Ils ont alors observé que dans les 5 minutes précédant le départ, l'activité vocale des grands singes augmentait considérablement. Et plus le nombre d'individus participant à ces échanges est important, plus ils sont susceptibles de se mettre en mouvement. En clair, le moment du départ est décidé collectivement et démocratiquement. Une fois qu'un certain nombre d'individus s'est prononcé en faveur d'un comportement, le groupe entier l'adopte. Une découverte qui remet en cause la théorie selon laquelle le mâle dominant, le dos argenté, décide seul de tout pour le reste du groupe. Les scientifiques espèrent désormais parvenir à déterminer la teneur de ces échanges en étudiant la variation des grognements. Mais l'enregistrement des vocalisations des gorilles peut aussi aider à décrypter d'autres types de coopération. Selon l'une des scientifiques à l'origine de cette étude, les grands singes communiquent également pour s'informer de la présence d'une nourriture de bonne qualité. Un partage d'informations qui maintient la cohésion du groupe.
Igor Strauss du service environnement climat de Radio France Internationale. Du sport et de la boxe pour refermer ce journal. Kinshasa accueille jusqu'à ce soir les championnats africains. Une compétition dominée pour le moment par le Maroc avec pas moins de 8 titres. Et à domicile, la RDC n'est pas en reste avec 4 médailles d'or, notamment avec le premier sacre de celle qui était porte-drapeau de la délégation aux Jeux Olympiques de Paris, Brigitte Babi. Olga Massangou a assisté à son combat.
She's the winner, the boxers. From the Democratic Republic of Congo, Babi Brigitte.
Plus qu'un titre, c'est une consécration pour la boxeuse congolaise qui devient championne d'Afrique pour la première fois.
Un grand plaisir. Je suis vraiment content d'avoir remporté ce titre de championne d'Afrique des Nations et je suis fière de moi-même.
Portée par tout le public du gymnase Mutombo Dikembe, Brigitte Mbabi, abattue au second round par arrêt de l'arbitre, la marocaine Mounir Toutir, dans la catégorie de moins de 66 kg d'âme.
Les premiers rounds, j'ai mené 5-0. Et le deuxième round, l'adversaire ne pouvait plus continuer. J'étais déterminée et je me suis très bien préparée. Voilà pourquoi je l'ai arrêté.
Médaille d'or à la Coupe Mandela à Durban, ce titre vient récompenser le parcours arrêté sur le goût d'inachevé de la pugiliste congolaise aux derniers Jeux Olympiques de Paris, pour le grand bonheur de Ilunga Luyoyo, président de la Fédération Congolaise de Boxe, qui va désormais assurer l'intérim de la présidence de la Confédération en lieu et place de l'Éthiopien Eyasu Ossem, à qui le mandat a été retiré suite à plusieurs griefs lui reprochés, notamment des conflits à répétition dans de nombreuses fédérations de boxe dont on l'accuse d'être à la base. Olga Masangu Kinshasa, RFI.
RFI, vous êtes à l'écoute d'Afrique Midi. Il est 14h45 ici à Paris, 13h45 à Malabo.
Afrique Midi sur RFI.
Et à suivre vos rendez-vous habituels du samedi, François Soudan au micro de Catherine Potet pour la Une de Jeune Afrique. Le journaliste nous parle aujourd'hui de Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils du président équato-guinéen. Jean-Baptiste Placa, dans sa chronique, revient sur la campagne électorale américaine à une dizaine de jours de la présidentielle. Et puis, la chronique des transports avec ce méga projet qui veut rallier l'Inde à l'Europe pour concurrencer les routes de la soie. À la Une de Jeune Afrique, cette semaine, un homme à la réputation sulfureuse, parfois appelé Baby Obiang, autrement dit Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale et fils de l'actuel président Teodoro Obiang Nguema Bassogo. Pour en parler, Catherine Potet reçoit François Soudan.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Jeune Afrique consacre une enquête détaillée à Teodoro Nguema Obiang Mangue, enquête qui dévoile un personnage impatient de succéder à son père, une attente qui dure depuis de longues années. Comment le vice-président de la Guinée équatoriale gère-t-il cette attente, François Soudan ?
Alors, si vous voulez savoir, hein, Catherine, à quoi Teodoro passe son temps en attendant de succéder à son père, je vous conseille vivement d'aller visiter son compte Instagram, intitulé Teddy Obiang. Il n'arrête pas de voyager dans son Boeing surdimensionné et de nous envoyer des cartes postales vidéo de ses activités. Alors, en ce mois d'octobre, certaines étaient officielles, hein, comme ses déplacements au Caire, à Budapest ou à Mexico, pour l'investiture de la nouvelle présidente. Mais cet incorrigible narcissique ne peut pas s'empêcher de nous abreuver d'images sur le côté bling-bling de sa vie privée. Comme, toujours en ce mois d'octobre, faire une razzia chez un habilleur de luxe sur la 5e avenue à New York, jouer au mini-golf ou pêcher le barracuda dans le golfe du Mexique. Alors quand on sait que son pays, la Guinée équatoriale, n'est plus exactement l'Eldorado qu'il était, puisqu'il est officiellement entré en récession depuis 2023, le message envoyé à ses quelques 2 millions de compatriotes est, disons, plutôt moyen, mais clairement il n'en a cure, puisqu'il vit sur une autre planète. Teodoro avait espéré accéder au pouvoir lors de la présidentielle de 2022, avant que son père se ravise et se porte candidat. Depuis, Catherine, il ronge son frein en attendant une élection anticipée ou le retrait du chef que l'on sait de plus en plus affaibli par une longue maladie.
Teodoro, François Soudan, c'est aussi l'histoire d'une irrésistible ascension jusqu'aux portes du pouvoir. Il est certes le fils du président, mais ce n'est pas le seul élément qui lui a permis de parvenir à sa position actuelle.
Tout à fait, c'est le fils aîné, hein, il a 55 ans, ça fait 30 ans qu'il évolue à la fois dans la politique et dans les affaires, depuis le poste de conseiller de son père jusqu'à celui de vice-président, en passant par le ministère des Forêts. Une irrésistible ascension, effectivement, qu'il doit avant tout à l'appui déterminé, implacable de sa mère, Constancia, qui est la première épouse, la première dame de la Guinée équatoriale, un soutien permanent qui a permis à Teodoro de prendre peu à peu le contrôle de l'ensemble des circuits de financement, de prédation interne basés sur le bois et le pétrole, mais aussi de l'armée, du gouvernement, du parti au pouvoir. Alors le couple quasiment fusionnel formé par ce célibataire endurci et sa mère a également été à la manœuvre pour écarter un à un tous les concurrents à la succession, à commencer par les demi-frères de Teodoro. Ruslan et Guillermo ont été marginalisés suite à des accusations de corruption, ce qui d'ailleurs ne manque pas de sel, hein, connaissant la réputation de Teodoro en ce domaine. Quant à Gabriel, le fils de Celestina, la deuxième épouse du chef de l'État, qui est un personnage discret, qui lui est bien vu des partenaires étrangers, qui a longtemps fait figure de rival sérieux, il a été éjecté du gouvernement en août dernier, après que son oncle eût été assassiné dans des circonstances troubles que beaucoup à Malabo ont interprété comme un avertissement, Catherine.
Enfin, Teodoro a la réputation d'être un jet-setter impénitent, mais on l'a vu, ce n'est pas le seul aspect de sa personnalité.
Non, pas seulement. Le personnage que décrit Mathieu Olivier dans son enquête, que moi-même j'ai rencontré à Paris il y a une quinzaine d'années, je m'en souviens, dans sa suite d'un grand hôtel entouré comme à son habitude de jeunes femmes, est aussi un homme intelligent, ambitieux, dénué de scrupules et totalement incontrôlable. Alors, lorsqu'il ne voyage pas, il vit, surtout la nuit d'ailleurs, dans sa villa de Sipopo, qui est une réplique de celle que la justice américaine lui a saisie à Malibu, entouré de gardes du corps serbes et ougandais. Tout le pays a été contraint de lui faire allégeance. Son accession au pouvoir est quasi inéluctable tant il a pris la main sur son père qui a depuis longtemps renoncé à le maîtriser. Une réputation de nos sœurs, Catherine, ça n'empêche pas de veiller scrupuleusement sur l'héritage.
Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cet entretien entre François Soudan et Catherine Potet à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. RFI 14h50 ici à Paris, l'heure de retrouver Jean-Baptiste Placa pour sa chronique hebdomadaire. Il est au micro de Julien Coquel-Rouhem.
Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquel-Rouhem.
Dans l'évocation ici de l'élection présidentielle américaine, le candidat républicain Donald Trump est omniprésent, alors que sa challenger démocrate Kamala Harris peut bien l'emporter. Mieux, elle entrerait dans l'histoire en devenant ainsi la première femme présidente des États-Unis, si nous parlions un peu d'elle.
Cette négligence relève des pièges qui guettent constamment le journaliste, enclin à accorder plus de place à ceux qui ne se tiennent pas comme il se doit, contrairement aux plus sérieux. Il en est ainsi des États, des gouvernements comme des dirigeants. Les cancres ont décidément le don de monopoliser l'attention au détriment des meilleurs qui mériteraient parfois d'être davantage mis en valeur, ne serait-ce que pour servir d'exemple, sinon de modèle à tous. Si elle l'emportait, Kamala Harris deviendrait non seulement la première femme à occuper le bureau ovale, mais aussi la première femme noire et la première femme d'ascendance asiatique, puisque sa mère, Shyamala Gopalan, était indienne et que son père, Donald Harris, est un noir de Jamaïque. Elle assume d'autant plus librement ses racines africaines que même sa mère indienne a élevé Kamala et sa sœur Maya dans cet esprit. Shyamala et Donald étudiaient dans une des plus prestigieuses universités des États-Unis, à Berkeley, mais c'est dans les cercles artistique et intellectuel noir où se pensait la lutte pour les droits civiques qui se sont connus, comme au célèbre Rainbow Sign où Kamala Harris, comme d'autres enfants d'activistes, croisait alors une multitude de célébrités, l'écrivain James Baldwin, l'immense pianiste, compositrice et chanteuse Nina Simone, la compositrice Odetta ou encore Sheryl Chisholm, première femme candidate dans les primaires démocrates.
Trump a dit qu'il ne savait pas trop si elle était noire ou indienne.
Avec un père économiste qui enseignait à Stanford et une mère médecin, biologiste, oncologue, qui a enseigné entre Berkeley et McGill au Canada, Kamala Harris aurait pu étudier dans n'importe quelle bonne université. Mais à 18 ans, c'est à Howard, une des plus célèbres universités noires des États-Unis, qu'elle a choisi d'entrer. Choix politique, identitaire, sans ambiguïté. Et il faut les avoir rencontrés pour comprendre à quel point les étudiants de Howard étaient fiers de fréquenter cette université qui a formé entre autres Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993, ou l'historien guinéen Djibril Tamsir Nian. Chez Kamala Harris, l'indianité s'imbrique avec les vibrations africaines. D'ailleurs, son grand-père maternel, P.V. Gopalan, acteur de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, a également servi et vécu en Afrique, notamment à Lusaka, capitale de la Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, où il coordonnait l'aide aux réfugiés fuyant la guerre de libération en Rhodésie du Sud, le Zimbabwe actuel. Kamala avait à peine 6 ans lorsque son grand-père indien est devenu conseiller de Kenneth Kaunda, le charismatique premier président de la Zambie. Noire, indienne, il suffit de scruter ses pas de danse pour comprendre qu'elle ne se contentait pas de clamer « I'm black and proud », elle vibrait.
Et pourtant, Jean-Baptiste, certains Afro-Américains hésitent aujourd'hui à voter pour elle.
Kamala Harris n'est pas dans une stérile complainte identitaire, elle se bat. Ainsi, lorsqu'elle découvre que 92% des victimes d'homicides n'avaient pas fait des études secondaires, elle ne se contente pas, comme tant d'autres, d'appeler à traîner en justice une police raciste. Elle conçoit une politique dissuasive contre l'absentéisme scolaire chronique pour obliger les parents à veiller à l'assiduité de leur progéniture, afin, disait-elle, que les jeunes gens comprennent qu'ils peuvent faire autre chose dans la vie que devenir des criminels. À une petite écolière qui lui demandait quel conseil il donnerait à une jeune dame qui voudrait devenir présidente des États-Unis. Gerald Ford, successeur de Richard Nixon, emporté par le scandale du Watergate, avait répondu qu'il fallait d'abord qu'un président homme la choisisse comme vice-présidente et que le président en question décède en cours de mandat pour que celle-ci lui succède. Que de sincérité. Mais le plus triste est que notre humanité continue de soumettre les femmes à une sourde présomption d'incompétence alors que tant d'hommes moyens, médiocres et parfois quelconques parviennent au pouvoir et s'y accrochent sans jamais répondre aux attentes de leur peuple. C'est ainsi que tous feignent, par exemple, d'ignorer qu'au cours des deux dernières décennies, un des rares dirigeants convaincants et compétents à l'échelle planétaire reste définitivement Angela Merkel. Une femme.
Jean-Baptiste Placard, merci beaucoup.
24-32-58-24.
Allez, la fin de cette demi-heure avec la chronique des transports. On vous parle du projet IMEC aujourd'hui. Comprenez, corridor économique entre l'Inde et l'Europe en passant par le Moyen-Orient. Malgré les incertitudes liées au conflit actuel, les États-Unis et l'Union européenne soutiennent ce projet. Le budget et la durée des travaux restent pour l'heure inconnus, mais 8 pays ont donné leur accord lors du dernier sommet politique du G20. Pour la France, Gérard Mestrayer est en charge de ce dossier corridor censé concurrencer les routes de la soie chinoise. La chronique de Marina Milsarek.
La première étape va consister à faire dans les 8 pays de ce futur IMEC, donc ce corridor Inde-Europe, l'inventaire de tout ce qui existe déjà en matière de chemin de fer et de ports maritimes équipés surtout pour recevoir du gaz et de l'hydrogène. Pour sa prochaine visite en Inde courant novembre, le responsable français réaffichera la volonté du pays. À l'aise devant les journalistes, Gérard Mestrallet l'est tout autant devant les patrons indiens travaillant en France, auxquels il a parlé le mois dernier à Marseille. Gérard Mestrallet.
Ce sera effectivement des liaisons maritimes entre l'Inde et la côte est du continent arabique, c'est-à-dire vers les ports des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Ensuite, ce sera une liaison terrestre jusqu'en Jordanie et Israël. Ensuite, ça sera à nouveau maritime jusqu'en Europe. Les marchandises transportées seront des containers, mais aussi ce seront de l'énergie.
Alors, concurrencer les routes de la soie, ce projet chinois déjà bien avancé qui veut relier de grandes villes et de grands ports du monde à la Chine, c'est une intention que l'on peut comprendre. Mais attention, nous explique le chercheur Yves-Marie Rourchocandard à l'Université Paris 1. Le problème sera de trouver l'argent.
Il n'y a pas vraiment de budget défini. Et pour rappel, les routes de la soie, ça représente plus de 1000 milliards de dollars. Donc on en est vraiment très loin avec ce projet. Alors effectivement, de l'Inde à l'Europe, il y a des exportations d'hydrocarbures, de métaux, de minéraux, de produits agricoles. Pour l'Europe, il s'agit avant tout de sécuriser ses approvisionnements, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors que pour l'Inde, c'est surtout de développer ses exportations industrielles et aussi agricoles éventuellement. Ce n'est pas, je pense, que le pays veuille aller trop vite, mais c'est surtout qu'il y a un grand besoin d'infrastructures de transport en Inde. Problème de maintenance sur les infrastructures anciennes. Quant à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ils se retrouveraient au centre d'un réseau d'échanges, ce qui accroirait leur pouvoir politique et économique. Je pense que le plus probable est une intensification des échanges plutôt entre régions proches. L'autre nouveauté peut-être, que outre la dimension transport, le corridor prévoit le développement d'un réseau de câbles sous-marins qui serviront à l'échange de données, un type d'échange qui s'affirme de plus en plus comme un enjeu géopolitique à l'heure actuelle.
Il est prévu pour le moment que chaque pays finance ses travaux et partage les frais avec les voisins quand leur nouvelle route, nouveau câble optique ou nouveau gazoduc traverse leurs frontières. En Europe, la France, l'Italie et l'Allemagne ont reçu le soutien de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Et c'est avec la chronique des transports de Marina Milsarek que se referme cette édition d'Afrique Midi. Merci à Quentin Moulin à la réalisation, à Cécile Périllard, attachée d'édition, à Esdras Dikoumana à la rédaction en chef. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Prochain point complet sur l'actualité africaine à 18h30, temps universel. Dans un instant, le retour de l'actualité internationale, ce sera avec Gilles Moreau. Il sera 13h en temps universel.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Un monde endetté. Que faire pour sortir de la spirale de la dette publique et privée ? Investir, relancer la croissance, mais ne pas crouler sous les emprunts. La question est au centre des assemblées du FMI à Washington. Son économiste en chef, le français Pierre-Olivier Gourinchat, est notre invité.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
BPM, c'est votre nouveau rendez-vous dédié à l'actualité musicale internationale. Au rythme des bonnes pulsations du monde, on va vibrer et apprendre des sons qui résonnent aux quatre coins du globe et pourquoi pas aussi se mettre au diapason.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol. Tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.